Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui revient maintenant précisément sur les négociations de paix, Franck.
Oui, on est donc dans cet hiver 70-71 dont il faut souligner qu'il a été particulièrement rude au passage. La Seine charrie, j'allais dire des morceaux de banquise, peut-être pas exagéré, mais en tout cas des gros glaçons, vous voyez, c'est assez... Le froid est terrible, les échanges sont complètement paralysés. Faut pas oublier qu'une partie non négligeable de la jeunesse de France a été mobilisée pour cette campagne. Les chevaux ont presque tous été réquisitionnés, ce qui ne facilite pas les labours. On est en pleine période des labours, donc vous voyez à quel point dans les différentes provinces on peut se poser des questions, bien entendu. Alors Gambetta, lui, ne veut pas en démordre. Il faut se battre. On ira se battre en Auvergne, dit-il, s'il le faut, et dans le Morvan, et au besoin jusqu'à la Garonne et jusqu'aux Pyrénées, et même en Algérie. Vous voyez déjà ce raisonnement. Il y a chez Gambetta une farouche énergie. Cet homme est plein de magnétisme. Il est le grand personnage, il est l'animateur, on peut dire, de la résistance, si j'ose employer ce terme anachronique. Et puis voilà qu'il reçoit soudain, on est le 29 janvier 1871, donc entre parenthèses, à Versailles, l'Empire allemand vient d'être proclamé dans la Galerie des Glaces, mais enfin ça nous entraînerait sur un autre sujet, si l'on peut dire. En tout cas, on reçoit à Bordeaux ce télégramme signé du ministre des Affaires étrangères, signé de Jules Favre. Versailles, 28 janvier 1871, 11h15 du soir. Nous signons aujourd'hui avec Monsieur Bismarck un armistice de 21 jours est convenu. Une assemblée convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites connaître nouvelle à toute la France. Faites exécuter armistice et convoquez électeur pour le 8 février. Un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. C'est tout à fait stupéfiant ce qui se passe. Et deux jours plus tard, il y aura ce célèbre discours de Gambetta dont j'avais dit que je ne vous le lirai pas et puis je ne résiste pas au plaisir parce que c'est quand même extraordinaire. À notre insu, hurle Gambetta à la tribune, devant tous ceux qui veulent bien l'entendre. On est à Bordeaux, hein. Sans nous consulter, on a signé un armistice dont nous n'avons connu que tardivement la coupable légèreté, qui livre aux troupes prussiennes des départements occupés par nos soldats et qui nous impose l'obligation de rester 3 semaines au repos pour réunir dans les tristes circonstances où se trouve le pays une assemblée nationale. Nous avons demandé des explications à Paris et gardé le silence, attendant pour vous parler l'arrivée promise d'un membre du gouvernement. Cependant, personne ne vient et il faut agir. Français, c'est une adresse. Français, songeons à nos pères qui nous ont légué une France compacte et indivisible. Ne trahissons pas notre histoire. Non, il ne se trouvera pas un Français pour signer ce pacte infâme. Vous voyez donc la belle cacophonie au sein même de ce gouvernement de défense nationale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Favre, et puis derrière lui, le gouvernement de Paris, à négocier ainsi avec Bismarck? Mais encore une fois, il faut tenir compte de ce froid terrible, de la disette. Je vous ai dit que les Parisiens en étaient à manger du chat, du chien et même l'éléphant du jardin des plantes. On a été pour se chauffer jusqu'à couper les arbres du bois de Boulogne, puis jusqu'à dépecer les bancs des boulevards. Finalement, la seule chose qu'on ait en abondance à Paris, c'est de l'alcool. Et bien entendu, cet alcool fait par ailleurs des ravages. Alors, on fait des sorties, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des attaques contre les Prussiens. Mais à chaque fois, c'est un véritable désastre. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis le 5 janvier, les Prussiens commencent à bombarder Paris et bombardent notamment la rive gauche. Donc tout ça crée une espèce de tension absolument impensable. Jules Favre a refusé de se rendre à la conférence qui avait été convoquée à Londres pour le 3 janvier, à la demande des Russes d'ailleurs, invitation du gouvernement britannique. Il faut dire que à Bordeaux, on l'avait beaucoup poussé à y aller. On disait, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais Jules Favre se dit que si Adolphe Thiers, avec son expérience, avec son entregent, n'a rien obtenu au cours de la longue tournée qu'il vient de faire des chancelleries européennes, alors lui n'obtiendra rien non plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est négocier l'armistice. Alors Monsieur Favre va mettre son paletot, il va essayer de traverser les lignes prussiennes et il va arriver à rejoindre à Versailles le chancelier de fer pour négocier avec lui.
Thank you.
Un extrait sur Europe 1 de l'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach.
Offenbach qui va partir, si je puis dire, avec le Second Empire, emporté par la Seine et ses crues. Alors, évidemment, cette mission extrêmement délicate qui a été confiée à Jules Favre est le plus mauvais moment de sa carrière. Il savait ce qui l'attendait, il était conscient. « J'avais depuis longtemps prévu, écrira-t-il, cette dernière et cruelle épreuve qui me serait réservée. » Il faut dire qu'on a essayé, évidemment, d'envoyer d'autres personnes à sa place, et notamment les maires de Paris, les maires des arrondissements de la capitale, sauf que, évidemment, les maires n'ont rien voulu savoir. Il n'est même pas question pour un élu parisien d'aller négocier avec l'ennemi. On commence d'ailleurs à crier, parce qu'il y a des insurrections, des émeutes qui commencent à se déclencher. Le 21 janvier au soir, notamment, des gardes nationaux ont envahi la célèbre prison de Mazas où se trouvaient les prisonniers politiques, et on a crié « Vive la Commune !» Vous voyez déjà, ça commence, le gouvernement est obligé de faire fermer les clubs populaires. Donc, il y a une très forte agitation et, évidemment, Favre s'est dit qu'il n'avait pas le choix. Voilà ce qu'écrit Jacques Chastenay. Favre quitta le ministère des Affaires étrangères à 5h de l'après-midi, tapis au fond d'une voiture, et gagna le pont de Sèvres. Une petite barque manœuvrant au milieu des glaçons lui fit traverser la Seine rougeoyante des reflets de l'incendie que les Allemands venaient d'allumer à Saint-Cloud. On est dans ce contexte en plus de guerre. À 8h, il était à Versailles. C'est là que 5 jours auparavant, dans la Galerie des Glaces, le roi de Prusse avait été solennellement acclamé empereur d'Allemagne par les princes confédérés. À 9h du soir, le plénipotentiaire français est introduit auprès de Bismarck, désormais chancelier de l'Empire, et il est accueilli par ces mots « Je vous attendais, monsieur ». On peut même imaginer l'accent un peu allemand de Bismarck. « Je vous attendais, monsieur ». Et là, les négociations vont commencer. Elles sont extrêmement dures, parce que c'est la tactique de Bismarck. Avant de se calmer, avant de lâcher du lest, il se montre toujours littéralement brutal dans les négociations. Il réclame évidemment des conditions épouvantables. Et le gouvernement, disons-le, on va y venir dans un instant avec mes invités, le gouvernement a opté pour un armistice général. Ce n'est pas seulement la capitulation de Paris qui est en cause. C'est l'armistice général pour l'ensemble de la France. Le lendemain, Favre retournera à Paris pour mettre le gouvernement au courant des conditions des Allemands, comme il faut dire désormais. Bismarck ne semble pas exiger l'entrée des troupes allemandes dans la capitale et il accepte que soit procédé à l'élection d'une assemblée nationale. En vérité, non seulement il l'accepte, mais il y a, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout intérêt. Favre reçoit donc les pleins pouvoirs pour conclure une convention qui sera donc une convention d'armistice général. Les pourparlers vont reprendre à Versailles le 23 août. On est à l'hôtel de Gessé, hein, rue de Provence, où s'est installé le chancelier Bismarck. Les négociations reprennent donc le 23 au soir et elles vont durer jusqu'au 28. C'est terrible, hein, on négocie pied à pied. Le plénipotentiaire français se défend comme il peut, mais évidemment, on a un peu l'impression de la souris avec laquelle le chat Bismarck est en train de s'amuser. La convention sera signée le 28 à 10h du soir, malgré l'opposition de Moltke qui, lui, aurait voulu aller encore plus loin dans une guerre d'extermination. On se rend compte finalement que dans chacun des camps, ce sont les modérés, si l'on peut dire, avec sans doute de part et d'autre de fortes arrière-pensées, ce sont les modérés qu'ils l'ont emporté sur les radicaux.